J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le sixième koan du mot Mankan. Le Bouddha tient une fleur. Le koan se lit comme suit. Un jour, alors que le bienheureux se trouvait au pic des vautours pour prêcher, il leva simplement une fleur devant l'assemblée. Tous ceux qui étaient présents demeurèrent silencieux, ne sachant que faire, sauf le vénérable Mahakashyapa qui sourit. Le bienheureux dit alors, « Je détiens le trésor de la vraie loi, l'esprit profond du nirvana, l'enseignement exquis de la forme sans forme, la porte subtile du dharma. Ils ne dépendent pas des mots et des lettres. C'est une transmission spéciale, en dehors des Écritures. Je les confère maintenant à Mahakashyapa. » Pour entrer dans ce koan, dont on dit parfois qu'il marque les débuts du bouddhisme zen, commençons par planter le décor. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, au pic des vautours, près de la cité de Magadha, en Inde. J'emprunte maintenant les mots de M. Lou. Le Bouddha devait être un homme doué de beaucoup de charisme et attirer une grande foule autour de lui partout où il allait. Les prêcheurs itinérants formaient un élément essentiel du paysage social à cette époque. Ils prenaient la place que prennent la télévision et les réseaux sociaux aujourd'hui, transmettant les nouvelles et l'information et offrant une certaine forme de divertissement. L'arrivée de l'un d'eux dans un village était comme l'apparition d'une vedette internationale de nos jours. On peut donc facilement imaginer le genre d'excitation que le Bouddha pouvait provoquer. Les gens se déplaçaient probablement des kilomètres à la ronde pour venir l'entendre. On peut voir la foule se rassembler, des gens partis très tôt le matin, apportant de la nourriture, se cherchant une place confortable à l'abri du soleil, des gens accompagnés de leurs enfants, des femmes allaitant leurs bébés. On peut imaginer l'excitation, le brouhaha, la tension qui montait au fur et à mesure que le moment de la rencontre avec ce grand maître célèbre approchait. On peut voir le Bouddha, probablement assis sur un siège surélevé, préparé par un dignitaire local, entouré de sa suite et de ses disciples, et peut-être de gens qui lui apportent des fleurs en hommage. Et tout à coup, tout se calme. Le silence se fait. Même les chiens cessent de japper. Tous attendent que le grand homme commence son discours. Et le Bouddha tient seulement une fleur. Voyez-vous la scène? Les gens regardent la fleur, regardent le Bouddha. Ils attendent. Ensuite, curieux de leur réaction, ils jettent un regard furtif vers leur voisin. Le regard de nouveau tourné vers la fleur, ils se demandent ce qui se passe au juste. Tous, excepté un seul, Mahakashyapa, il sourit. Ce koan est d'une grande simplicité. Le Bouddha tient une fleur et son disciple Kashyapa sourit. Autour d'eux, les gens restent perplexes. Ils espéraient autre chose. Un sermon peut-être, ou quelques perles de sagesse, une révélation ou une quelconque magie spirituelle. De nombreux commentateurs ont eux aussi tenté d'interpréter ce koan en cherchant un sens caché au geste du Bouddha et au sourire de Kashyapa. Tous, semble-t-il, espéraient autre chose qu'une fleur et un sourire. Mais il n'y a rien de tout cela. Aucun sermon, aucune perle de sagesse, aucune révélation, aucune magie d'aucune sorte et aucun sens caché. Qu'y a-t-il donc? Simplement un grand morceau de silence où le Bouddha lève une fleur et son disciple Kashyapa sourit. Aux yeux de ceux et celles qui sont venus entendre le prêcheur itinérant au pic des vautours, ce qui s'est passé est d'une grande pauvreté. Le spectacle n'en valait vraiment pas la peine. Ils s'en retournent chacun chez soi, toujours perplexes et sans doute fortement déçus. C'était une si belle journée, ils auraient pu faire tant d'autres choses. C'est une expérience que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Nous allons entrer dans ce koan par cette porte. Celle que nous ouvre la déception ressentie par ceux et celles qui sont venus entendre le Bouddha. C'est une déception qui nous est familière. Elle ressemble à une désillusion parfois amère et remplie d'humilité qui apparaît en nous lorsque la réalité contredit les désirs auxquels nous sommes attachés. Cette réalité que nous appelons l'avenir, nous l'avions imaginé et rêvé comme une sorte de paradis provisoire où nos désirs allaient être enfin réalisés. Notre imagination s'exaltait, multipliant les promesses de plaisir et les répétant en boucle dans notre esprit. C'est comme une ivresse sans alcool. Nous nous enivrons de nos propres désirs exaltés, surtout de ce désir si fondamental en nous d'être quelque chose d'unique dans le monde, un être distinct de tous les autres, un être doté d'un destin particulier et promis à un avenir si magnifique. Et lorsque tout cela vient se fracasser sur les murs de la réalité, nos prétentions et notre vanité se cassent en mille miettes. C'est amer comme du vinaigre. Nous ne savons plus trop où donner de la tête et nous nous éloignons de ce qui est, en balbutiant que ça n'aurait pas dû être comme ça, ou que la réalité est injuste et que les choses devraient être différentes. Nous n'avons pas mérité cela. Ce jour-là, au pic des vautours, ceux et celles qui étaient venus s'asseoir à l'ombre des arbres attendaient quelque chose du prédicateur itinérant. Mais il a simplement levé une fleur et l'un de ses disciples a souri. Dans son livre « La doctrine suprême selon la pensée zen », Hubert Benoît s'attarde longuement à décrire ce qu'il appelle le film imaginatif qui nous tient lieu d'histoire personnelle. C'est un film dans lequel je suis l'acteur principal, le metteur en scène, le scénariste. Un film où j'ai distribué tous les rôles que doivent jouer les autres. Mes amis et parents, frères et sœurs, mes collègues de travail. Un film qui doit exalter certaines valeurs, telles que par exemple la justice, l'honnêteté, la franchise ou la compassion, et en rejeter d'autres, la violence, le mensonge, la cruauté, par exemple, à moins qu'elles ne servent mes fins. Car dans ce film imaginatif, je contrôle tout. Du moindre décor à la moindre réplique, de la moindre émotion au plus noble sentiment. Tout est en place, le silence se fait, et alors je dis « action ». Et j'essaie de tenir mon rôle au mieux de mes capacités. Et je m'attends à ce que les autres fassent de même, en se conformant au film imaginatif que j'ai créé dans mon esprit, et qui n'a finalement d'autre but que la mise en valeur de ma propre personnalité, de ma propre personne, de l'être unique et distinct que je crois être. Le zen dit que l'esclavage de l'être humain réside dans son désir d'exister, écrit Hubert Benoît. Et il poursuit en disant « Cela fait cependant partie de la condition de l'être humain. c'est-à-dire de chacun d'entre nous, qu'ils doivent nécessairement passer par le désir d'exister pour un jour s'en libérer. C'est l'échec, correctement compris, de toutes les tentatives visant à satisfaire le désir d'exister qui peut briser l'obstacle constitué par ce désir. C'est pourquoi il est si important d'être attentif à ce qui monte en nous lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est-à-dire lorsque la réalité contredit notre film imaginatif. Nous pouvons alors voir notre propre souffrance s'élever et la regarder directement dans les yeux. Cette souffrance dont parlent si bien les quatre nobles vérités apparaît sous bien des formes. Dans nos vexations, nos humiliations, notre rage d'impuissance, notre mépris des autres. Elle s'exprime aussi avec indignation dans nos plaintes d'être maltraités par la vie ou les autres, d'être incompris et injustement accusés ou rejetés. Cette souffrance qui monte en nous, il faut lui laisser toute la place et la laisser se consumer en soi-même, ne pas la refuser ou la repousser. Comme le dit si bien Hubert Benoît, c'est l'échec, correctement compris, de toutes les tentatives visant à satisfaire le désir d'exister qui peut briser l'obstacle constitué par ce désir même. Notre désir grandiose d'exister en tant qu'être unique et distinct de tous les autres, notre soif d'être une chose exceptionnelle dans ce monde, tout cela est voué à l'échec, irrémédiablement. Mais nous avons besoin de ces échecs et de la souffrance qu'ils soulèvent en nous pour briser l'obstacle que constitue notre propre désir d'exister. Comprenez bien que nous ne pouvons pas intentionnellement briser cet obstacle. Vouloir le faire, c'est créer d'autres obstacles. Il faut simplement ne rien refuser et ne rien retenir de ce qui est. Garder les mains ouvertes, ne rien saisir, laisser tout s'écouler. L'on apprend peu à peu à sourire à tout ce qui est. C'est la seule façon d'aller au-delà de notre désir d'exister en tant que quelque chose et d'être simplement ce que nous sommes déjà. Car au-delà de ce quelque chose que nous cherchons désespérément à être, il y a ce que nous sommes déjà. C'est là. Et là seulement que le Bouddha lève une fleur et que Kashyapa sourit. L'on dit aussi de ce koan qu'il raconte la première transmission entre un maître et son élève dans l'histoire du Zen. La fleur est levée, le sourire de Kashyapa apparaît et le Bouddha dit alors « Je détiens le trésor de la vraie loi. L'esprit profond du nirvana, l'enseignement exquis de la forme sans forme, la porte subtile du dharma. Ils ne dépendent pas des mots et des lettres. C'est une transmission spéciale, en dehors des écritures. Je les confère maintenant à Mahakashyapa. Le trésor de la vraie loi, l'esprit profond du nirvana, l'enseignement exquis de la forme sans forme, la porte subtile du dharma, c'est tout simplement ce qui est, ici et maintenant, immédiatement sous nos yeux. Regarde sous tes pieds, disait le maître au moine, qui l'interrogeait sur le sens de la venue en Chine de Bodhidharma. Ce qui est, ne dépend pas des mots et des lettres et est toujours en dehors des écritures. C'est notre vrai visage, avant que la moindre pensée n'apparaisse dans notre esprit. Mais comment cela peut-il être transmis? En levant la fleur, le Bouddha n'essayait pas de transmettre un savoir ou une idée quelconque. Il a simplement levé une fleur. Voir les choses telles qu'elles sont, voir ce qui est, c'est aller au-delà du désir d'exister dont parle Hubert Benoît. C'est voir que les choses s'écoulent sans cesse dans un enchevêtrement inextricable de causes, de conditions et d'effets. Une fleur est levée, un sourire apparaît. Rien n'est stable, pas même pour un seul instant. Dans le zen, on utilise souvent l'analogie du miroir pour parler de l'esprit. Un miroir reflète ce qui est, sans jugement ni opinion. On pourrait dire que c'est ainsi que les miroirs répondent à ce qui est. Ils ne le défendent pas, ils le laissent intact. Il est aussi dans la nature de notre esprit de refléter les choses sans les changer. Les choses se révèlent comme elles le doivent, d'instant en instant. Voilà le trésor de la vraie loi dont parle le Bouddha. Et ce trésor est déjà transmis. Il est sans cesse transmis. Il se révèle à chaque instant. Regarde sous tes pieds, dit le maître. Dans un miroir, les images changent. Mais le miroir lui-même n'en est pas affecté. Il ne refuse rien de ce qui apparaît et ne retient rien de ce qui disparaît en lui. On pourrait dire qu'il voit tout simplement. Il n'impose rien aux images qu'il reflète. Un miroir n'a aucun désir d'exister en tant que soi séparé. La transmission dans le zen devient possible lorsque l'esprit n'a plus aucun désir d'exister en tant que soi séparé. La transmission d'esprit à esprit entre un maître et son élève n'est pas la transmission de quelque chose, une vérité secrète, une révélation cachée ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est simplement l'accord complet au-delà des mots et des lettres, entre l'expérience du maître et celle de son élève. Je suis une fleur. L'univers entier est une fleur. Si la moindre pensée apparaît, tout disparaît, écrit Zenkei Shibayama. Au-delà de ce quelque chose que nous cherchons parfois si désespérément à être, il y a ce que nous sommes déjà. Qu'est-ce que c'est? Qui sommes-nous vraiment? Ici, le Bouddha lève une fleur et Kashyapa sourit. Nous en sommes au dernier jour de la retraite. Et dans quelques heures, nous allons quitter le centre et rentrer à la maison. L'on dit parfois qu'une retraite telle que celle-ci ne se termine jamais. Elle se poursuit dans notre vie quotidienne. Et l'on pourrait même tout aussi bien dire qu'elle vient de notre vie quotidienne. C'est là qu'elle a commencé. C'est là que se trouvent les racines de notre pratique. Dans les contradictions de notre propre esprit, dans cette sorte de mal-être intérieur qui nous accable parfois, et aussi dans ces élans vers l'unité qui montent en nous. C'est là que cette retraite que nous allons bientôt quitter a commencé. Et c'est là aussi que nous allons la retrouver en revenant vers nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues. C'est avec eux que nous allons continuer à la vivre. Si vous le voulez bien, commençons par revenir avec reconnaissance et gratitude envers tous ceux et celles qui ont pris soin des choses pendant notre absence et nous ont permis d'être ici au cours des 5 derniers jours. Rappelez-vous, au centre, nos chants avant les repas du matin et du soir commencent par les mots suivants. Nous devons ce repas à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. Lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit bien que la gratitude qui s'y exprime remonte jusqu'au début du monde. C'est la même chose ici. Et nous pourrions tout aussi bien chanter « Nous devons notre retraite à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. » Encore ici, lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit d'abord nos proches, parents et amis, et tous ceux et celles qui nous ont aidés à être ici. Mais en regardant un peu plus loin, l'on voit le Bouddha lui-même, assis en méditation au pic des vautours, puis Kashyapa qui sourit, et aussi Rinzai, Kyogen, Unmon, Seiken, et tous les autres maîtres du Zen. Puis aussi tous ceux et celles qui, par leur pratique personnelle de la voie, nous ont transmis par-delà les millénaires les enseignements qui nous guident. C'est avec un cœur ouvert que nous nous inclinons devant eux. Je vous souhaite de tout cœur de poursuivre votre pratique. Continuons, si vous le voulez bien, à pratiquer ensemble. Comme Jeff Shore nous l'a rappelé lors de l'une de ses visites, vous avez la chance d'avoir une communauté bien vivante. Traitez-la avec respect. C'est une chose très précieuse.